7h40 sur France Culture.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et il y a eu plusieurs Arnaud Montebourg, Montebourg avocat anti-chiraquien, Montebourg attaquant TF1, Montebourg en marinière, Montebourg démissionnaire, ou plutôt démissionné. Maintenant voici Arnaud Montebourg, alternative à gauche. Mais quelle alternative propose-t-il à une gauche divisée, perplexe? Bonjour Arnaud Montebourg.
Bonjour Monsieur Erner.
Vous êtes ancien ministre de l'économie, aujourd'hui entrepreneur. Nous allons vous faire réagir tout d'abord à quelques thèmes d'actualité avec tout d'abord cette décision de l'exécutif qui a expliqué qu'il n'y aurait plus d'autorisation de manifester si les conditions de préservation des biens, des personnes et des biens publics n'étaient pas garanties. Votre avis sur cette décision ?
Je ne pense pas que ce soit une bonne décision. D'abord parce que le droit de manifester est un droit constitutionnel, acquis de haute lutte, et que, de surcroît, les problèmes de sécurité en marge de ces événements, qui ont fait l'objet d'ailleurs de condamnations de la part des organisations organisatrices de ces manifestations sont indépendantes et doivent le rester de l'acte pour tout citoyen d'un droit, exerçant un droit constitutionnel de manifester son opinion sur la voie publique. Donc, c'est un peu comme si on disait, il y a des problèmes dans les stades, donc on supprime l'euro. C'est exactement la même chose. Ce n'est pas aux supporters d'un match d'assurer la sécurité du 10 match. Ce n'est pas non plus aux organisations syndicales d'assurer la sécurité en marge de la manifestation. Ils ont déjà fort à faire, et d'ailleurs eux-mêmes le reconnaissent, en organisant par un service d'ordre dont ils ont eux-mêmes salué le sang-froid. Je rappelle que la manifestation a été interrompue car les organisations syndicales ont décidé de ne pas aller au bout parce qu'il y avait des violences. Après, c'est la responsabilité individuelle. C'est à la police d'assurer finalement le maintien de l'ordre. Je note que les forces de l'ordre sont exténuées. Je voudrais leur rendre aussi hommage, d'une certaine façon, parce que elles prennent en ce moment beaucoup sur elles. Elles assurent trois fronts, hein, le front social, le front terroriste et le front footballistique. Ça fait beaucoup.
Justement, la gauche est divisée sur la question donc de l'autorisation des manifestations, sur l'attitude également à adopter par rapport aux casseurs et par rapport à ce que beaucoup appellent des violences policières injustifiées. Votre avis à vous là-dessus ? Est-ce que vous employeriez le mot de casseur ? Est-ce que ce mot vous gêne ?
Quand vous avez des dégradations matérielles, des atteintes aux biens ou aux personnes, ce sont des infractions pénales graves qui méritent d'être sévèrement poursuivies et jugées. Voilà. C'est comme ça, c'est la loi. La loi s'applique à tous. Le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. Tout le monde peut s'exprimer sur la voie publique. Il n'y a pas de droit à aller casser quoi que ce soit, d'ailleurs, ou porter atteinte à je ne sais quel fonctionnaire de police, quel qu'il soit, d'ailleurs. Et d'ailleurs, toute personne, quelle qu'elle soit. Donc ça s'appelle la loi de la République. Elle doit être appliquée. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut savoir distinguer et retenir son sang-froid. Moi, je suis surpris de voir que dans cette espèce de fracturation du pays, de déchirure, il y a comme une sorte d'incapacité à organiser le compromis, la recherche des solutions en commun.
Vous voyez une solution aujourd'hui ?
Je crois qu'il y en avait. Si vous voulez, nous sommes en face de la politique du coup de force permanent. Vous avez un problème parlementaire, on sort le 49-3. Vous avez une motion de censure qui est sur le point d'être déposée par des parlementaires de la majorité, fait exceptionnel, on sort la machine à sanctionner. Vous avez un problème avec les organisations syndicales, les pétitions, vous leur interdisez de manifester, etc., etc. Vous avez un problème d'impopularité du président qui pourrait peut-être pas avoir son investiture à la présidentielle, vous supprimez les primaires. C'est la politique du coup de force permanent.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire sur cette loi travail-là maintenant, puisque c'est ça le fond du problème sur les manifestations et la mobilisation en ce moment.
Je crois, écoutez, le bon sens,
qu'est-ce que commanderait
le bon sens dans un pays où on cherche la conciliation et non pas la confrontation. Nous avons, je crois, assez confronté sur le sujet. D'abord, le gouvernement peut parfaitement organiser la discussion avec les organisations syndicales. Elles sont quand même nombreuses. Et cette partie de la population, ça concerne 14 millions de salariés qui travaillent dans le privé. Moi, je connais des entrepreneurs qui ne sont pas favorables non plus à cette loi. Pour des tas de raisons.
Mais
c'est-à-dire que c'est une cote mal taillée.
Au-delà du dialogue, le fond de cette loi, qu'est-ce qu'il y a pour vous à sauver dans cette loi ? Qu'est-ce que vous auriez fait ?
D'abord, j'aurais discuté. Reprenons le film un instant, puisqu'on a le temps entre nous. Premièrement, j'aurais discuté préalablement avant l'annonce. Deuxièmement, j'aurais évité des positions politiciennes. Quand vous cherchez à réformer, il faut que tout le monde soit de bonne foi et on cherche des solutions en commun. Donc, par exemple, lorsque la droite sénatoriale rétablit le texte initial du gouvernement, ne pas expliquer que la droite sénatoriale organise la régression sociale, parce que finalement, vous êtes vous-même l'auteur de celle-ci. Lorsque vous avez des organisations syndicales, il y a 1 million de personnes qui ont signé une pétition, c'est rarissime en France, vous cherchez à trouver un point d'équilibre.
Certes, mais sur le fond du texte, qu'est-ce qui pour vous est bon et qu'est-ce qui est mauvais dans cette loi travail et dans ces différentes versions?
Je vais vous donner mon sentiment.
Le compte personnel d'activité, par exemple.
Non, mais
vous
d'accord,
en pensez
mais
quoi?
Je vais vous dire, ce n'est pas le point de crispation, ça. Le point de crispation, c'est l'article 2.
Donc
est-ce qu'on
vous,
peut parler de l'article 2?
Bon, on peut parler de tout ce que vous voulez. Mais est-ce que le compte personnel d'activité, pour vous, est une bonne mesure?
Évidemment. Même si, à mon avis, ça aurait dû être fait depuis longtemps. Mais...
D'accord.
Le véritable sujet,
la hiérarchie des normes, donc.
Aujourd'hui, les organisations qui s'opposent au texte s'opposent sur l'article 2.
Donc cette fameuse hiérarchie des normes, l'idée selon laquelle on va négocier dans les entreprises.
Quelle est cette stratégie européenne qui consiste à organiser la course au moins-disant social dans tous les pays où, finalement, comme en Espagne, on a sorti des millions de salariés des conventions collectives, il y a eu des baisses de salaire de 50%. Là, ce n'est pas le cas dans la loi. Il faut être honnête. Mais quelle est c'est la même logique.
C'est un texte
c'est
qui
d'ailleurs
a été
une raison pour laquelle des dirigeants... C'est un texte qui a été commandé par la Commission européenne.
Et qui a été écrit sous la dictée de Bruxelles.
Quasiment, puisque c'est l'idéologie dogmatique de l'oligarchie bruxelloise. J'appelle pas la technocratie, parce que là-dedans, vous avez des dirigeants politiques, M. Juncker, qui sont d'accord avec cette stratégie qui consiste à dire vous allez créer de l'emploi en détruisant des protections des salariés, ce qui n'est pas démontré. Car la vérité, c'est qu'en baissant les salaires partout, et c'est une des craintes qu'a exprimé, par exemple, certains élus du MoDem, qui ne sont pas accusés ou accusables de je ne sais quel extrémisme dans leur position. Ils ont dit, le risque, c'est qu'il y ait des baisses de salaires et que les entreprises elles-mêmes, par la négociation d'accords, se fassent concurrence entre elles, par la baisse notamment de la rémunération des heures supplémentaires.
Donc c'est vous êtes crainte... hostile à cette inversion de la hiérarchie des normes, parce que pour vous, l'idée, c'est en quelque sorte de flexibiliser le marché du travail, et c'est ça qui vous embête.
Je crois qu'il est possible de le faire dans une branche. Et il est parfaitement possible que dans une branche, dans la négociation de branche, on fixe les conditions de la flexibilité.
C'est n'est pas interdit. En quoi est-ce différent de ce que la loi
parce
propose,
que
de ce qu'est
la loi
ce projet de loi
supprime l'étage de la branche et ouvre en quelque sorte les vannes de la négociation entrepreneuriale où vous allez avoir des chefs d'entreprise qui vont fabriquer du droit du travail.
Mais
je peux vous dire,
aujourd'hui,
ils
vous êtes entrepreneurs.
Je termine. Ils ont mieux à faire que de négocier des dérogations aux accords de branche.
Vous en êtes sûr? Vous êtes entrepreneur aujourd'hui?
Je peux vous dire. Vous savez, nous, le problème de l'entreprise aujourd'hui, ce que c'est? C'est pas le droit du travail. On trouve des accords sur le droit du travail. On s'arrange dans les petites entreprises. Je rappelle que 1 million d'entreprises ont moins de 10 salariés. Nous, on est à 15 dans mon entreprise, que j'ai la chance dont je préside le conseil de surveillance, une petite start-up. Mais je dois vous dire que le sujet, c'est pas le droit du travail. Le sujet, c'est les banques, l'accès au financement, le crédit qui nous est offert, y compris, et le comportement des grands groupes. D'ailleurs, vous interrogez tous les patrons de TPE, PME, leur quotidien, c'est ça. Mais ça, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Pourquoi? Parce que c'est un non-dit, c'est une crainte dans la relation économique. Parce qu'il y a des phénomènes de dépendance économique qui n'existent pas dans d'autres pays, parce que notre économie, elle est fabriquée sur le mode du système politique Louis XIVien. Des grands groupes qui dominent la plèbe. Vous savez, les gueux de l'économie. Voilà. En Allemagne, c'est pas comme ça, c'est un pays décentralisé. Vous avez une économie à l'image d'un pays qui a des anciens, c'était les anciens royaumes, les anciennes principautés qui sont maintenant des Länder.
Arnaud Montebourg, qu'est-ce que vous avez appris en devenant entrepreneur que vous ne saviez pas sur l'économie, que vous ne saviez pas quand vous étiez politique? On va continuer à en parler avec Marie Viennot.
D'abord, je voudrais dire qu'on sait beaucoup de choses quand on est, quand on a 50 ans, qu'on a été avocat, député, président de conseil général, ministre, on sait beaucoup de choses, mais on ne les a pas forcément vécues. Donc moi, on sait beaucoup de choses parce qu'on a 50 ans. Déjà, premièrement. Bon. Après, on sait beaucoup de choses parce que l'art de la politique, c'est l'art de s'intéresser à autrui. C'est l'art de l'altérité, qui consiste à entrer dans la vie d'autrui et de la comprendre, de la connaître. Mais connaître n'est pas vivre. Et j'avais envie de vivre cette expérience. J'ai décidé de cesser de vivre de la politique, donc de gagner ma vie par mes propres moyens et d'être parfaitement indépendant. Bien sûr, matériellement, mais aussi intellectuellement.
et de ne plus être dépendant du novlangue, de la pensée de mon parti politique.
On est d'accord, c'était un crochet pour mieux revenir.
Je sais pas. Moi, je reste ce que je suis. C'est-à-dire que, d'ailleurs, faites l'expérience, à 53 ans, quittez tout ce que vous avez fait pendant 15 ans, 20 ans, 17 ans exactement. Et allez vous former dans une école, ce que j'ai fait, puis ensuite, allez, mettez en œuvre. Vous verrez, c'est un choc personnel. Et je tiens à conserver le bénéfice de ce choc. Pourquoi ? Parce que c'est une transformation dans la vision du monde. Et j'ai envie de vous dire, je n'ai pas l'intention de briguer des mandats locaux et de recommencer la vie publique telle que je l'ai vécue. Je reste un citoyen engagé. J'ai une opinion sur les choses. Vous avez l'obligeance et la gentillesse de me demander mon opinion. Mais je ne représente que moi-même à ce micro. Je n'ai pas de mandat, je n'ai pas de qualité à m'exprimer au nom d'autrui. Voilà. Et je le fais comme ancien ministre, certes. Je me suis mis à écrire un projet. Leprojetfrance.fr. Voilà, c'est dit. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin d'une alternative, de penser autrement.
Alors on va
de
voir
penser différemment.
En économie, voilà. Cette alternative, Marie Viennot, une question.
Bonjour Arnaud Montebourg.
Bonjour,
écoutez, justement, c'était ma première question. C'est quoi un projet alternatif sur le plan économique ?
D'abord, c'est un projet qui accepte les idées qui aujourd'hui n'ont pas le droit de citer. Vous savez qu'il y a un mouvement dans l'économie, vous avez qui vont de prix Nobel à des chercheurs en sciences sociales, en économie, en sciences comme on dit inexactes. Hein, c'est pas les sciences dures, mais c'est les sciences humaines. Il y a un réservoir de pensée sur ce sujet-là. Moi, j'ai été frappé quand j'étais au gouvernement de voir à quel point il y a un anti-intellectualisme du pouvoir.
Alors, il y a quoi comme idée qu'on ne met pas en œuvre et qui serait intéressante pour l'avenir ?
Vous avez d'abord toute l'école keynésienne qui a été piétinée par tout le dogmatisme européen. Moi, je suis allé à Princeton donner des conférences sur ce qu'a été l'expérience de la zone euro. Là-bas, à Princeton, vous avez des gens qui travaillent sur la zone euro.
Un projet alternatif, c'est un projet keynésien ?
Viens. Il y avait le bureau à côté du mien, il y avait celui de M. Paul Krugman, un prix Nobel. Quand on cite à l'Élysée, en France, Paul Krugman, on dit oui, mais enfin quand même.
Oui, il y a aussi des prix Nobel qui sont des monétaristes ou il y a des prix Nobel de tous les côtés. C'est pas parce que c'est un prix Nobel qu'il a forcément raison. Le projet alternatif, c'est un projet keynésien.
Je dirais que pour faire marcher une économie, il faut deux jambes. Il faut l'offre et la demande. On a fait l'offre, on n'a pas fait la demande. Donc c'est les deux, mon général, j'ai envie de vous répondre. Pourquoi ? Et je suis désolé de ne pas être aussi binaire que vous le souhaiteriez, peut-être.
Non, je voudrais pas que vous soyez binaire, je voudrais que vous soyez nouveau, puisque vous dites qu'il y a des nouvelles idées. Et bon, le keynésianisme,
c'est pas très compliqué de comprendre les dégâts de l'austérité dans l'Union européenne, mais ça, on n'a même pas le droit de le dire. L'obsession de la dette et du déficit a eu pour conséquence de détruire du capital économique, de nous placer en récession et de prolonger inutilement les souffrances de la zone euro. Je ne parle pas que de la France. La France a encore, elle a eu une politique d'austérité fiscale qui a fait des dégâts considérables. Dans les autres pays, c'était des dévaluations internes extrêmement destructrices. Franchement, on n'a même pas pu mener le débat au sein du gouvernement.
Vous avez le même discours à peu près que M. Guénot qui était ici, c'est-à-dire finalement l'austérité non, ces contraintes de pourcentage de PIB, enfin de dette sur PIB, c'est pas la peine. Hein. Bon.
Mais voilà, si M. Guénot dit ça, je l'en félicite, parce que je lui faisais le même reproche lorsqu'il était le conseiller de Nicolas Sarkozy, puisque
François Hollande disait la même chose avant d'être candidat en 2012.
Oui, d'accord, mais vous avez parfaitement raison. Alors là, j'approuve votre réaction de dire qu'à chaque fois qu'on fait campagne sur la réorientation de l'Union européenne, quelques heures, ou jours, ou semaines après les promesses de campagne, on prend son avion quand on est président de la République. Ça a commencé avec Jacques Chirac, ça s'est poursuivi avec Nicolas Sarkozy et encore François Hollande. On va faire les génuflexions à Berlin et à Bruxelles. On rentre et toutes les promesses de campagne sont passées à la poubelle.
Arnaud Montebourg, si vous étiez anglais...
Ça n'est plus possible.
Si vous étiez anglais, est-ce que vous voteriez le Brexit ?
Je ne suis pas anglais. Mais je dois vous dire, je suis européen, pro-européen et français. Mais je ne m'inquiète pas du Brexit. Voilà mon point de vue de français. Les Anglais, j'ai retrouvé une phrase dans Les chaînes qu'on abat d'André Malraux. C'est très intéressant, on est sur France Culture, vous permettrez que je prenne le temps de parler d'autre chose que de choses assez triviales. Malraux dit au général, je lui ai dit que l'Angleterre n'était jamais plus grande que lorsqu'elle se retrouvait seule, alors que la France n'était grande que lorsqu'elle l'était pour le monde. J'adore, tout est dit. Elle est seule, elle veut le rester. La France, elle veut redevenir grande et l'Europe l'en empêche.